Radio éphémère 89.1 MHz.
CPU, carré et petit utile.
Dans cette release de CPU, du hardware littéralement poncé, du vieux code un peu bancal, des chatons et des matous très joueurs, et une bannière adverse à conquérir. Nos invités sont DXC0, DevSecOps et Cryptax, conceptrices de compétitions de hacking. L'équipe aujourd'hui d'un Scritch. J'espère que vous avez mis vos smartphones offline, on ne sait jamais.
CPU, carré et petit utile.
Bonjour à tous, audi lectrices et audi lecteurs, et surtout amatrices et amateurs de la face numérique de nos civilisations. C'est une chance. C'est une chance énorme d'avoir à Toulouse un événement tel que la THCon, la Toulouse Hacker Convention, qui a fêté cette année ses 10 années et fait preuve d'une très bonne santé. Un événement annuel professionnel qui n'est pas un événement marketing, dont la programmation s'axe surtout sur la technique, dont le ticket d'entrée reste d'un tarif abordable et qui peut inviter des conférenciers de très haut niveau. Et surtout, un événement qui se passe dans une très bonne humeur, alors que l'on parle avant tout de sécurité informatique, de tentatives de compromission et de pénétration, de défense périmétrique et de niveau de dangerosité, ce qui en général, dès qu'on y met un commercial en costard-cravate, affiche une mine grave et concernée et sort des sophismes devant une assemblée professionnelle consternée. Au contraire, on a un peu de l'ambiance de la DevCon de Las Vegas ou de la CCC, la Chaos Communication Congress de Hambourg, à une échelle bien plus réduite, puisqu'on n'y trouve que 200 spectateurs dans l'amphithéâtre de prestige de l'université Paul Sabatier comme écrin. Et je tiens à signaler dès maintenant aux grincheux, mauvais coucheurs et censeurs ignorants en informatique et en droit, que ce type d'événement est parfaitement légal, et je dirais même plus, absolument nécessaire afin d'assurer la solidité de nos systèmes. Il faut juste savoir réfléchir avec son cerveau pour y aller et comprendre quelque chose, plutôt que réfléchir les arguments de lobbyistes commerciaux très quelconques, demandant au hasard d'affaiblir les systèmes de chiffrement. Du 5 au 7 mai 2026 a donc eu lieu cette 10e édition, dont nous fûmes dans l'assistance. Et avant ça, lundi 4 mai, eut lieu en préambule une demi-journée de conférence à l'IRIT, qui est le centre de calcul de l'université Paul Sabatier. Une demi-journée scientifique, sécurité pour et par le matériel, organisée par l'ICO, l'Institut de cybersécurité d'Occitanie. Des conférences en français qui présentaient les derniers travaux en analyse et compromission de systèmes de chiffrement. Lors de ces 5 conférences, des représentants du LAS-CNRS, le laboratoire du numérique, du LIRM, laboratoire robotique et microélectronique de Montpellier, des démonstrations d'attaque par Ninja Lab, un laboratoire de recherche privée sur les failles en side-channel, et Thales sur les micro-architectures et implémentations de secrets. Pour vous expliquer le type de travaux qui y furent présentés, disons que vous avez un système de token d'authentification en clé USB. Le genre d'engins qui sont utilisés pour la double authentification par les salariés des très très grandes banques internationales et des entreprises très 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 sensibles. Mais que vous pouvez aussi avoir à utiliser sur des comptes à crypto-monnaie. En clair, ce que vous aurez très rarement en France ou dans une administration publique. Normalement, la clé privée n'est absolument pas extractible de ce genre d'engin. Enfin, normalement. Car nous avons vu des démonstrations à base d'analyse de consommation électrique, de tirs laser, et oui, de scanners à champ magnétique, d'abus de micro-instructions et autres joyeusetés. Nous en parlerons très prochainement dans une autre release de CPU, tellement ces attaques technologiques sont incroyables, et là, on n'est plus seulement dans la programmation logicielle. C'était dense, passionnant, effrayant pour son compte bancaire, et qu'un amuse-ménage pour la suite de la semaine. Mardi 5 et mercredi 6 mai, premier jour de la THCon, nous avons eu droit dans le prestigieux grand amphithéâtre de l'université Paul Sabatier à de passionnantes conférences. Point à noter, ces conférences furent faites en anglais, ce qui a toujours été la règle pour la THCon. Non, pas par snobisme ou pour écarter les moldus qui s'y égareraient, comme diraient certains dans notre équipe, mais parce que les intervenants invités venaient du monde entier, parfois d'Arabie Saoudite ou des États-Unis. C'est dire la réputation qu'a acquis Lighty Hitchcock à l'international, et la dite réputation n'est absolument pas usurpée. Elle. Je vais résumer très succinctement les termes abordés. Accrochez-vous, la liste est très intense. Comment sont menées les attaques sur les réseaux mobiles pour tromper les smartphones et implémenter des dispositifs d'écoute? Les différentes méthodes d'attaque pour arriver à deviner une clé secrète enfouie au sein d'un processeur, aussi bien en analysant sa consommation électrique qu'en jouant sur les effets de bord d'instruction? Une étude de la sécurité du protocole Wireless Art, un protocole sans fil industriel dans la bande des 2,4 GHz? Le framework Python open source de hacking sans fil WHAD, Wireless Hacking Devices, Casino Limit, un framework conçu par l'INRIA d'identification de risques sur la base de vulnérabilités connues dans le catalogue MITRE, comment détecter la présence d'un malware par l'analyse du bus d'un système embarqué, au hasard un train, un avion ou un satellite, les problèmes de sécurité dans les applications écrites en web coding, un classique depuis 3 ans, mais un rappel toujours salutaire qu'un code écrit par une IA génératrice n'est pas toujours facilement auditable ou bien clair, le standard d'analyse de risque EBIOS RM mis au point par l'ANSI, les bugs d'architecture matérielle exploitables par des personnes malveillantes, comment un langage de programmation peut espérer éviter les possibilités d'injection de vulnérabilité, les dernières inventions business dans la cybercriminalité vues par une spécialiste du renseignement militaire américain, une économie souterraine dont l'oratrice estime le volume d'affaires généré par les arnaques et extorsions à 10,5 000 milliards de dollars chaque année, soit à peine moins que le PIB de la Chine, la méthode développée par Airbus pour capitaliser sur les tentatives d'intrusion pour mettre en place des systèmes d'alerte, les attaques par réécriture du master boot record de votre disque dur, ce moment dans le démarrage de votre ordinateur entre l'UEFI et le lancement de votre système d'exploitation usuel où un programme peut tourner avec le maximum de privilèges sur le matériel, les tentatives de découverte de logiciels de triche dans les FPS, parce que là aussi il y a du mouron à se faire, et pas que quand vous jouez ou que vous pariez en ligne, et la recherche de possibilités d'attaques multifactorielles dans un système complexe. Oui. Deux journées très denses, avec un retour bienvenu sur les 10 ans de la THCon et la possibilité de toujours exploiter des failles qui ont un certain âge. Et à côté des conférences, des stands professionnels et aussi des ateliers afin d'échauffer ses phalanges et méninges dans une saine compétition de hacking. Parce que le badge pour suivre les conférences était complété par un badge électronique de chez DVID. Un badge programmable conçu pour éduquer à la pénétration sans consentement par Bluetooth, Wi-Fi ou les bus I2C, UART, JTAG et autres protocoles série. Comme Enflammé me l'a fait remarquer, il est beau comme un badge de la DEFCON, et un spécialiste du Data Lab l'a trouvé fort bien conçu avec des composants de qualité. Au prix de notre participation, c'était plus que rentable. Un jeu a été proposé aux participants à la conférence. Extraire de ce badge farpètement sécurisé une clé secrète qu'il embarque dans son code, histoire de repartir avec quelques lots rigolos. Le challenge étant au final de faire tourner sur le badge le jeu Doom. Ouais, le bon vieux jeu FPS sur un écran de 96 par 48 pixels monochrome. J'ai même pas eu le temps d'oser tenter, deux concurrents l'ont fait en moins de 2 heures, c'est vous dire comment les participants étaient d'un très haut niveau. Pendant ce temps, dans les travées, tout le monde parlait de la dernière faille assez violente qui touche tout l'écosystème Linux, la faille CopyFail et ses dérivés. Nous en parlerons dans cette release avec DXC0 qui était lui aussi parmi les spectateurs. Jeudi 7 a été lancé le Capture the Flag de l'événement, un concours durant 24 heures que je pourrais expliquer comme un escape game d'énigmes numériques. Nous allons aussi parler de CTF avec Cryptax durant cette release. Bref, cette première semaine du mois de mai, on aurait pu la passer à tenter de bronzer entre les giboulées dans le toujours magnifique campus de Rangueil, mais à la place, on a décidé de se prendre des coups de chaud et de froid en termes de sécurité informatique. Il n'y a eu aucun mort, aucun blessé, aucune donnée privilégiée divulguée, mais soyez assurés que dans l'assistance, bien des égos furent blessés, bien des croyances furent violentées, mais c'est justement le but de ce genre d'événement. Rappelez que, comme on l'a souvent dit, « ACAB, all computers are broken » et que tôt ou tard, une faiblesse deviendra le levier d'attaque d'une puissance adverse. Si le niveau pouvait sembler ardu et demande des connaissances qui peuvent sembler très avancées en informatique et en électronique, en plus d'un niveau d'anglais oral confirmé, la THCon est accessible à des étudiants. Certaines écoles privées achètent des places à cet effet, à des développeurs d'applications lambda type web et appli mobile, tout en côtoyant dans les fauteuils des responsables de laboratoires d'antivirus, des responsables sécurité de grandes entreprises, des chercheurs de failles et des bétoudeurs d'applications. Car si toutes les conférences dont j'ai donné qu'un très court résumé sont disponibles en vidéo comme pour les précédentes, notre meilleur conseil reste d'aller les vivre sur place, d'aller discuter, échanger, bricoler, tester, bref, de découvrir cette communauté. Car comme tous les événements techniques dont nous parlons dans notre émission, au hasard, Capitole du Lit, Paris Web, DevFest Toulouse, le programme officiel, leur Discord et les enregistrements des conférences n'en sont qu'un aperçu. Ce qui se passe sur place est encore plus instructif. Et plus il y aura de public, plus ces événements seront assurés d'exister une année de plus, avec peut-être encore plus de participants, de communications stupéfiantes, de magie pure à apprendre. Nous remercions les organisateurs et les bénévoles pour la qualité de l'événement, les sponsors pour qu'ils accueillent son public avec respect, et vous ! Oui, car outre moi et Benoît, nous avons eu plaisir de retrouver des auditeurs de CPU. Nous continuons notre immersion dans l'événement Toulouse Hacker Convention après cette interruption musicale. Herbalizer, Ginger Jumps Faints, extrait du fabuleux album Blow Your Headphones. écoutez Radio Éphémère. CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes dans les travées de la 10e édition de la Toulouse Hacker Convention, THCon. CopyFail est la dernière faille d'importance découverte dans le kernel Linux. Elle fait très mal. Elle est présente depuis 10 ans et permet l'escalade de privilèges pour tous les utilisateurs présents sur le système. Affichant un score CVS de 7,8 sur 10, ma foi, un fort beau gabarit et un code Proof of Concept pesant 732 octets en Python. En clair, c'est le passe-partout dévastateur et universel. Inutile de vous dire que, justement pour cette édition des 10 ans de la THCon, ça en bruisse pas mal dans les couloirs. Mais est-ce vraiment ce que on annonce? N'a-t-on pas un peu exagéré son importance? Découverte par l'analyseur IA Xintcode, édité par Theory, en une heure de revue de code kernel, est-ce un coup marketing un peu trop bien monté pour se faire remarquer après 2 années de CVE slop? Nous en parlons avec DXC0, DevSecOps, biclassé CTI.
CPU, carré, petit, utile.
Pour commencer, DXC0, bonjour et bienvenue.
Bienvenue.
Ça fait combien de fois que tu es venu à la THCon?
Alors là, ça fait 2 fois que j'y vais et on compte bien continuer si tout se passe bien. Voilà. Et que ça continue dans le temps.
Pourvu que ça dure, comme on dit. Quand j'ai vu l'info sur CopyFail passer au petit matin, je me suis dit « Wouh, putain !» Puis en relisant « Wouh, putain, wouh, putain, wouh, putain !» Et là, on m'a dit que quand je monte à plus de 1 WPTPM « Wouh, putain !» par minute, c'est que ça craint sérieux. Quelle fut ta première réaction quand tu as vu cette faille?
Eh bien, moi, je vois souvent des CVE Linux passer à longueur de journée sur le net. Enfin, voilà, quand on est dans la cyber, on est un peu habitué à voir ça tout le temps. Moi, j'ai tendance à prendre du recul directement, dans le sens où souvent, les médias exagèrent fortement, on va dire, l'exploitabilité des choses. C'est-à-dire que oui, effectivement, là, on est sur quand même quelque chose d'important. Mais voilà, prendre du recul, souvent, il y a beaucoup de bruit parce qu'il y a du buzz. Et savoir discriminer ce qui est pertinent du reste. Mais voilà, on va dire que c'est quand même un peu grave parce que ça se fait juste avec un wget sur une machine sans avoir besoin d'amener des binaires ou quoi. Donc voilà.
Je te remercie en tout cas pour m'avoir compté parmi les médias. Faut-il paniquer si on a des équipements basés sur Linux et impatchables, nickel root, pour pouvoir désactiver ce qui fait la faille?
Mon avis, moi, sur ce genre de sujet, c'est que ça va dépendre de la criticité des assets. On va dire que quelqu'un qui a une bonne défense de base sur son SI devrait pas forcément être inquiété directement, ou du moins pas forcément paniqué quand il y a une faille de ce type. Ça veut pas dire qu'il faut pas la patcher, ça veut dire qu'il faut quand même monitorer ses vulnérabilités. On va dire que faut quand même avoir quelqu'un qui arrive sur la machine pour pouvoir l'exploiter. On peut se poser la question de quel est le risque et quelle est la menace. Donc oui, vous pouvez avoir un utilisateur interne qui effectivement peut faire des choses comme ça, mais il doit quand même avoir un accès. Donc comment a-t-il eu un accès si votre politique d'authentification est que tout n'est pas exposé en mode password? En théorie, vous avez le temps de corriger ou du moins de mettre de l'atténuation, quoi.
Disons que si j'utilise toujours des OnePlus 2 pour télécommande sur ma télé, ou là quand même... Ah mais oui, mais non, ça joue pas, puisqu'il y a ce Linux dans le kernel Android. Donc dans ce cas-là, question suivante, le fait que le code fautif incriminé est dans le wrapper AEAD et le module ALGIF AEAD du sous-système cryptographique suite à une optimisation un peu rapide... Oh putain, Radio Éphémère, on lâche des mots, c'est trop génial. Je vais encore faire paniquer les émissions de reggae qui se réveillent en nous écoutant. Ça ressemble un petit peu à une autre époque, dans un patch malheureux de Debian qui a donné Heartbleed. Doit-on considérer que la cryptographie devrait plus se conformer aux bonnes règles de gestion mémoire et même d'écriture de code dans le kernel?
Je ne suis pas un expert sur le sujet, donc je vais dire je suppose que oui.
Sincèrement, ça ne te choque pas d'avoir des mods, des inlines, de l'assembleur à la place du C sur un truc qui théoriquement ne parle pas du matériel mais qui parle juste de chiffrement?
Alors si on peut dire ça, après on peut se dire que ça va sur des bonnes voies. Quand on regarde que maintenant Linux a accepté officiellement le code Rust...
À reculons,
mais c'est le cas. Les commits, y avait plein de commits en attente sur plein de projets que moi je suis en open source qui commencent à passer. Donc je pense que c'est sur des bonnes voies. Mais voilà, après on se prend de la dette technique, on va dire ça, et pas forcément évidente à corriger, quoi.
On l'aura toujours, malheureusement, quoi que l'on fasse, surtout vu la complexité du code en question. Android est immunisé grâce justement à en fait une version teintée du kernel Linux qui s'appelle SE Linux. D'autres ont pu facilement désactiver le module ALGIF AEAD via le shell ou sinon invalider le cache en mémoire du système de fichiers. Est-ce que c'est une preuve que finalement il n'y a pas de quoi tant paniquer que ça, ou quand même, non, faut être sérieux, faut regarder ça quand même un petit peu de manière consternée et concernée, parce que derrière, il y a beaucoup de budget à défendre pour les achats de nos systèmes périmétriques en entreprise.
Alors, ouais, je suis parfaitement d'accord sur les budgets, sachant que toutes les entreprises n'ont pas le même ni les mêmes compétences sur place. Après, voilà, il y a quand même ce qui est possible sur le papier ou pas. Et je maintiens que ça dépend ce que vous utilisez comme techno. On va dire que moi, je pense, enfin, je fais partie d'ailleurs, ça tombe bien, des personnes qui sont assez pro SE Linux. Moi, je conseille la plupart du temps des systèmes Red Hat, même si je sais qu'il y a polémique et ça coûte très cher. Du coup, c'est effectivement quelque chose qui permet d'éviter des accès incontrôlés et notamment l'exploitabilité de ce genre de trucs. On va dire que c'est un peu la continuité du principe de moins de privilèges, etc. Et il y en a plein qui le font. Par exemple, Microsoft, sur leurs infrastructures Asus, ils sont en train de rollback et de passer sous Fedora.
Azure.
Azure, pardon, excusez-moi.
Pas de pub.
Pas de pub. Donc sur Azure, ils passent sur du Fedora aussi. Donc ça se réfléchit. Disons qu'on a besoin d'avoir peut-être, au-delà d'avoir SE Linux, quelque chose qui puisse faire du mandatory access control. Quoi. Alors, correct.
Si les mises à jour kernel n'arrivent plus, que faire d'autre ? Et on ne va pas dire que ça n'existe pas quand même. Linux est utilisé un petit peu partout, aussi bien dans les voitures que dans des imprimantes DocuCenter branchées en réseau dans les entreprises.
Alors, je ne sais pas trop quoi dire.
Parce que là, on parle de matériel qui ne dure pas 2 ans, qui peut durer 10 ans, mais dont la maintenance des kernels ne dure même pas 3 ans, des fois.
Alors, c'est vrai. En plus, surtout, il y a beaucoup de choses qui peuvent rester en legacy et dont les constructeurs, en fait, s'occupent même plus. Il n'y a plus d'upstream, il n'y a plus rien. On voit que les systèmes comme Debian ou tout ce qui est connu, ils sont en train de corriger. Red Hat, ils ont refait un kernel compilé avec tout ce qu'il faut, etc., corrigé. Par contre, ouais, on peut se poser la question sur des bagnoles ou des trucs comme ça. Comment on pourrait faire ? Moi, j'ai pas la solution. Je sais pas ce que toi t'en penses. Je te renvoie la balle parce que
couper l'accès réseau. Et tant pis, ça imprime plus.
Alors, ça peut marcher sur des trucs qui ont pas besoin du net, mais ouais, je vois ce que tu diras.
Xincode a-t-il vraiment montré son utilité ?
Oui, je pense. Je pense que oui. Après, moi, je suis pas fan de l'engouement des IA. Ce genre de choses, je suis assez réfractaire. Forcé de constater que c'est quand même des outils qui sont utiles.
D'après ce que j'ai compris, en plus, ça n'est pas utilisé comme agent autonome. C'est un framework sur lequel se base un utilisateur pour faire des tâches répétitives bas niveau.
Oui. En fait, moi, la manière dont je vois ce genre d'outils, c'est qu'en fait, au lieu de le voir comme de l'intelligence, enfin l'IA, c'est quand même assez bullshit, on va dire qu'il faudrait le voir comme un système d'audit automatisé, c'est du DevOps, quoi. Genre on automatise la gestion de la sécurité sur des assets et le test, voilà. Enfin, je pense que c'est nécessaire, c'est bien. Après, défaut positif, il y en aura toujours. Il faudra toujours des êtres humains pour checker ce qui leur sort, quoi.
Oui, c'est vrai qu'on a parlé des CVO Slop, mais il y a prochaine génération donc de Claude, qui n'est pas encore sortie d'ailleurs au moment où l'on enregistre, qui a suffisamment mis la panique pour que Firefox n'ait fait une release, donc la release numéro 150, qui était basé uniquement sur la correction d'inconsistance levée justement par Claude en avant-première.
Ok. Merci Firefox.
Plutôt merci Claude de leur avoir donné un accès en avant-première. Il faut absolument mettre un ou plusieurs outils d'audit en IA avant de déployer en pré-prod ?
Je pense que ça peut être utile, ouais. Ça peut être utile, ça fait gagner du temps. Faut pas que ce soit une raison, ça dépend encore une fois des entreprises, faut pas que ce soit une raison pour descendre des effectifs, parce qu'on a besoin d'êtres humains qui checkent la qualité de ce qui sort et qui soient capables de prendre du recul par rapport à ce que va donner l'outil d'audit selon sa performance. Après voilà, moi je suis pour l'automatisation, je suis pour que le monitoring soit plus simple, le patching soit plus rapide, donc oui je suis pour. Ouais.
À la NTS par exemple, avec la dernière faille de sécurité qui mériterait des baffes.
Ouais, ce que j'allais dire. Il y a des fois où c'est des problèmes vraiment profonds au niveau du code ou du SI, et après il y a des fois c'est des problèmes de négligence. Moi, j'ai pas les tenants aboutissants de pourquoi ça s'est passé. Après, on peut se poser la question, est-ce que c'est un manque d'effectifs, est-ce que c'est un problème de formation, un problème de qualité des infrastructures, faudrait le voir. Je pense qu'il y a que eux qui savent vraiment ce qui s'est passé, quoi.
Pour en revenir à cette faille, donc appelée copy fail par ceux qui l'ont découverte, on reproche le timing au découvreur de la faille, 34 jours entre le moment où il divulgue la faille au mainteneur kernel et son annonce en public, sans attendre que les paquets correctifs soient disponibles dans les distributions. Distrib qui, des fois, ont appris la faille en même temps que leurs utilisateurs. Est-ce que la divulgation n'a pas été faite responsablement, ou faut-il blâmer le temps de latence des distrib ou de la réactivité de certains sur le kernel ?
Mon avis sur la question, non, ça devrait pas être divulgué avant patching général de quasiment tout, si on peut, hein, dans la faisabilité technique. Après, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on découvre quelque chose, on a toujours envie de publier, quoi. Je pense qu'il y a un besoin viscéral de publier, de pas se faire voler la découverte par une personne tierce. Ça, c'est, je pense. Après, ouais, effectivement, il faudrait que ça aille plus vite. On peut l'exiger quand on paye un abonnement, quelque chose de pro, quoi. Genre quand on a un contrat avec un mainteneur sur quelque chose. Après, quand vous êtes sur des distributions qui sont libres, open source, ce genre de choses, on peut pas blâmer les mainteneurs, on peut pas blâmer les contributeurs. Après, côté kernel plus haut, là, oui, effectivement, il y a des gros financements, on peut se poser la question. Mais sinon, sur les distributions, à part Red Hat et peut-être Ubuntu, quand vous prenez la version serveur et que vous payez vos abonnements, je vois difficilement comment on peut blâmer... les mainteneurs du distro, quoi.
Mais on avait quand même pas mal reproché à beaucoup d'éditeurs qui avaient été mis au courant pendant des années de failles, qui ne corrigeaient pas parce qu'ils se disaient « tant que ça ne se sait pas, ça peut passer sous le radar ». Et d'un autre côté, on se plaignait aussi de certains découvreurs de failles qui le planquaient, et certains soupçonnaient que c'était pour proposer des ADE à des agents étatiques ou à de la criminalité organisée.
Bah, là, on part sur quelque chose qui est plus politique. Moi, je ne sais pas forcément si ils gardent les découvertes de failles pour forcément les donner à des agents étatiques ou les vendre.
Pourquoi donner ? On peut les vendre.
Ou les vendre à d'autres. Bah, probablement que ça existe. Le mieux, c'est d'attendre que tout le monde patche. Si on est éthique, il n'y a pas besoin de publier le truc. Encore moins avec comme on a vu que ça a été fait. Surtout sur un POC aussi simple, quoi. La personne aurait dû comprendre que c'était quelque chose d'exploitable ultra facilement, une fois qu'on a un accès, bien entendu, et donc pas le publier de manière trop légère, on va dire.
Petit instant, reconnaissons le petit plaisir coupable. Ce genre de faille, c'est idéal pour espionner son ex ou son patron.
Ah, c'est pas faux.
C'est quoi que t'as pas compris?
On peut vérifier la fiche de paix. Est-ce qu'on aura l'augmente l'année prochaine? Enfin, voilà, quoi. Enfin, ouais, non, mais c'est sûr. Après, c'est ce genre de faille, je pense que c'est compliqué en termes d'exploitabilité. Comment vous voulez bloquer ça, en fait? À partir du moment où le code, il est dispo, je veux dire, il a été copié 12 milliards de fois, il y aura forcément... Là, j'ai vu, ils avaient bloqué, en termes de DNS en France, le copy fail, je sais pas quoi, l'URL.
Ouais, moi, qui c'est qui a fait ça?
Moi, j'arrive plus à accéder... Donc, à mon avis...
C'est complètement idiot. C'est accessible de n'importe où, des opérateurs mobiles et tout.
Bah, je sais pas, mais moi, j'ai vu des blocages... J'ai commencé à avoir des blocages DNS, même avec Proton, VPN, ça commence à bloquer. Hein, donc, ça sert à rien de faire ça.
Ouais, l'information étant libre, c'est un petit peu trop tard. Faut-il interdire aux divulgateurs de failles de déposer les noms de domaine avant de décrire la faille ?
Ben, moi, j'ai envie de dire, juridiquement, si on veut créer quelque chose pour couvrir éventuellement, pourquoi pas. Mais ouais, ça sert à rien, c'est toujours contournable. Je veux dire, juridiquement, oui, on peut dire, oh là là, c'est interdit. Voilà. Mais vous savez, entre ce qui est interdit et ce qui est fait, et ce qui est en zone entre deux grises, enfin voilà. Quoi, donc, après, voilà, si vous voulez, si on veut remettre des services de l'État à courir à travers les mecs qui publient des domaines, on peut y aller, hein, de toute façon. Voilà, mais je pense pas que ce soit utile. Ça servira probablement à rien. Voilà.
DXC0, merci beaucoup. Je te relâche et c'est le retour justement vers la salle de conférence. Une conférence qui t'a bien plu, là ?
J'ai bien aimé la conférence sur les aimbots, là. Les aimbots détection pour les jeux vidéo.
C'est détection anti-cheat dans les FPS, voilà, on explique.
Ouais, c'est ça, exactement. Et après, une note que j'ai bien aimée. En vrai, il y en avait pas mal des intéressantes. Il y en avait une sur Mitre hier, sur le labelling aussi, j'avais bien aimé, parce que ça fait partie de mon métier. Mais ouais, globalement, de toute façon, les conférences sont de très bonne qualité, donc voilà. J'invite tout le monde à venir à la THCon, dès qu'ils peuvent.
Merci DXC0.
FMR 89.1, corrosif.
Chez FMR Web Agency, le responsable d'infrastructure est un ancien garçon boucher.
Alors on va saucissonner ça et les dockers seront bien protégés.
En sécurité, il vaut mieux savoir bien trancher.
La dernière fois qu'il y en a un qui a voulu voler quelque chose en magasin, je lui ai lancé le hachoir. On ne l'a plus jamais revu. Alors les hackers chinois, vous imaginez?
Car un site web, c'est comme en cuisine. L'important, c'est la matière première.
Ah! 4,6 téraoctets. Il y en a un petit peu plus, je vous le mets.
Chez nous, c'est le client d'abord, et l'hygiène numérique aussi.
Certifié HACCP alimentaire. Bien sûr, hein.
On ne sait plus si la direction trouve l'antivirus trop cher, ou si la direction est antivax, mais le service IT est rempli de morts-vivants. Tous les processus lancés deviennent aussi des processus zombies. Il y en a partout. Et ils ralentissent les PC des employés, des clients, les contaminants.
Chris, si tu sais que l'intranet est devenu une apocalypse zombie.
Ah ! VOD indisponible pour cause de ralentissement réseau.
Your construction smells of corruption. I manipulate to recreate this air to go down saga, go launder my karma. Go launder my karma.
Low Fidelity All Stars featuring Pigeonhead, Battle Flag, extrait de l'excellent album How to Operate with a Blown Mind.
Organize. A new production of the new free leader stand up. Organize.
Vous écoutez Radio FMR. C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes dans les couloirs de la 10e édition de la THCon, la Toulouse Hacker Convention. À l'heure des IA de plus en plus performantes, capables d'assister dans la recherche de failles complexes ou de comprendre un projet complexe, que peut-on faire ? Comment peut-on encore préparer une compétition de hacking genre Capture the Flag à l'heure des IA ? Nous en parlons avec Cryptax, fondatrice de Phone CTF, une compétition axée sur le hacking éthique d'objets connectés.
CPU, carré petit utile.
Cryptax, bonjour.
Bonjour.
Combien de fois êtes-vous déjà venu à la THCon ?
Je crois que c'est la troisième fois. J'hésite entre troisième et quatrième. Je suis déjà venue au moins deux fois. Mais il y a une fois où c'était en virtuel à l'époque. Alors ça compte à moitié.
Voilà. Ça devait être en 2020, si je me trompe.
Oui, je crois.
Ouais. Grand moment justement de hacking par rapport à l'impossibilité de sortir. Alors, pour commencer, on va faire le basique. Qu'est-ce que le CTF, le Capture the Flag ?
Alors, ouais, c'est un jeu informatique. Le but du jeu, on a plein d'énigmes informatiques et il faut arriver à retrouver une information qui est cachée, qu'on appelle le flag, le drapeau, qui est généralement une chaîne de caractères qui est cachée quelque part, dans un binaire, dans un flux de réseau, dans un petit peu ce qu'on peut avoir. Et pour y arriver, il faut un certain cheminement logique, et jusqu'à trouver cette information-là. On ne devine pas, on ne peut pas deviner le flag, c'est fait exprès.
Ou alors c'est vraiment un cas d'une improbabilité telle que même le guide du retard galactique n'oserait pas. C'est quoi l'affiliation avec les FPS comme Call of Duty ou Overwatch ? C'est la violence pure ?
Pour les CTF ? Il y a souvent dans les CTF des parties à l'intérieur où ils ont refait carrément des jeux. En fait, et on joue à l'intérieur. Je me rappelle d'un notamment qui était extraordinaire où ils avaient refait un jeu. Alors je sais plus, c'était un jeu un peu vieux. Ça aurait pu être par exemple du Doom ou un truc comme ça. Ils avaient mis sur un des murs du jeu le flag. En fait, donc il fallait se balader dans le jeu pour retrouver le flag qui était caché dans une salle. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on appelle les flags ou les challenges un petit peu mis, c'est-à-dire qui sont pas catégorisables de manière habituelle, quoi. Voilà.
Je tiens à signaler d'ailleurs que donc pour la 10e édition de la THCon, on a une grosse surprise, c'est qu'on a eu un badge électronique à essayer de pirater. C'est fait exprès hein, pour être piraté. Le but du jeu, c'est justement de faire installer Doom dessus. À quoi sert un CTF, sinon à parquer des jeunes futurs délinquants à capuche et les sociabiliser dans les salons de commerciaux en cybersécurité ?
Ouais, alors ça c'est vraiment très cliché quand même.
Non, c'est vécu en octobre, on a eu le CBC à Toulouse, le Cyber Security Conference, c'était un peu ça.
Le but du jeu, c'est vraiment d'apprendre. On apprend vraiment des techniques qu'on peut réutiliser. Moi, je suis en vie professionnelle, donc qu'on peut réutiliser dans les métiers derrière. Donc ça, c'est bien. Après, il y a un côté qui est vraiment un petit peu fun, un peu compétition, arriver à hacker un petit peu mieux que le voisin. Il y a aussi cet aspect-là. Donc le but du jeu, comme souvent on passe du temps, on va dire, enfermé dans une salle, le temps de trouver les challenges, c'est que à la fois on apprenne et à la fois on passe un bon moment, quoi. C'est un petit peu ça, lie un peu les deux.
Voir à échanger avec des parfaits inconnus à gauche à droite pour s'échanger les tricks.
Oui, bah il y a plein de discussions qui se font comme ça où on se partage des astuces, etc.
Est-ce que le but social en fait du CTF, c'est pas un petit peu d'exploser le trop-plein d'énergie du chaton très très joueur ou pour dérouiller un vieux matou qui s'encroûtait en ESN ?
Je sais pas trop.
Quelle est la typologie en fait, tout simplement ? L'âge moyen, c'est des débutants, c'est des vieux aguerris, c'est des gens qui sont encore dans une école ou des vieux de 50 ans, 60 ans qui se rappellent un petit peu les souvenirs de quand ils essayaient de pomper Discrete 10 de Canal+.
Alors, je pense que la majorité, une grosse proportion, c'est des étudiants. Ou juste post-étudiant, c'est quand même pas forcément la majorité. Par exemple, sur Phone, le CTF là qu'on organise, c'est moins de la moitié en fait qui est étudiant et donc plus de la moitié sont en activité. Après, sur les âges, ça va un peu varier. Il y a moins de plus âgés, mais il y en a quand même significativement. À mon sens, à moi, finalement, l'âge le plus compliqué pour venir jouer, c'est ceux des jeunes parents. C'est sûr que si le lendemain matin, on a un petit de 2-3 ans qui déborde d'énergie et qu'on a passé la nuit à faire du CTF, c'est compliqué, quoi.
Alors justement, avant que tu aies créé ton propre CTF, donc Phone, je tiens à préciser que c'est au propos de l'IoT, et on va y revenir tout à l'heure. Toi-même, tu as participé à combien de CTF, si tu as tenu le compte, si tu as ton mur de trophées quelque part?
Alors, je sais plus trop, je l'ai noté quelque part, donc je pourrais retourner l'information, mais je dirais facilement une vingtaine de CTF où j'ai participé. Et hier, là, à THCon, il y en avait un qui parlait d'un CTF qui était très vieux, là, qui était, je crois que ça s'appelait Securitech. Donc, celui-là, effectivement, j'y avais participé. C'était, je crois, un des premiers auxquels j'avais participé.
Je crois que c'était en 2003, un truc comme ça,
ouais. Ouais, donc il y a pas mal de temps. Et après, il y a plein d'autres fois où j'en ai fait d'autres. Ils sont tous des types un petit peu variés, plus ou moins difficiles, plus ou moins du monde, voilà. J'en ai fait une bonne vingtaine quand même. Ouais.
Et donc, Phone, qui est donc justement le CTF que tu fais, d'après ce que j'ai compris, c'est une thématique IoT. Comment c'est venu? C'était un besoin industriel? C'était une envie qui t'était propre? Ou quelqu'un qui a dit, ce serait bien qu'on organise quelque chose et ça nous changerait peut-être du concours de Galette Botton?
Alors, en fait, moi, je fais de la recherche sur les virus qui sont soit sur téléphone mobile, donc ça rentrait plus ou moins dans le cadre IoT, et aussi sur l'IoT. Donc ça s'inscrivait bien par rapport à mon travail, en fait. Et après, je trouvais que on n'avait pas à l'époque beaucoup de CTF. Donc là, moi, c'est sur la région sud-est, proche de Sofia Antipolis. Donc ça, voilà, ça permettait d'avoir quelque chose un peu de local, quelque chose qui n'existait pas, parce que pour l'instant, il y avait beaucoup des CTF qui étaient très orientés web, pawn, etc. Là, avoir quelque chose qui soit vraiment spécifique aux objets connectés, c'était nouveau, donc c'était sympa.
Alors, on a eu hier, justement, l'organisateur de Braze CTF, on l'a compris, c'était en Bretagne, en conférence sur le plateau de la THCon. Est-ce que ça discute, justement, entre organisateurs de CTF ou non? Au contraire, on va garder dans notre côté notre petite tambouille au cas où il y ait une fuite sur la manière, justement, de pouvoir passer l'étape numéro 4 qui est si cruciale.
Non, on discute entre nous. D'ailleurs, il y a pas si longtemps, je dirais, il y a un an, on a fait une sorte de Discord sur tous les organisateurs, alors pas que de CTF, de conférences, mais vraiment pour les organisateurs en eux-mêmes. D'ailleurs, on ne parle pas vraiment des spécificités, on ne parle jamais des spécificités. Citer par exemple des challenges de CTF, de tel truc, tel, etc. Mais plutôt sur l'organisation, quelle infrastructure on va mettre, comment est-ce qu'on fait si le réseau tombe, enfin toutes les petites emmerdes d'organisation qu'on peut avoir, quoi. Et ça, si on en parle et on se partage les trucs qui marchent bien assez librement, ça c'est très sympa. Ouais.
Et pourquoi pas dire, ah Maëlle, ne peut pas venir, est-ce que ça te dirait de venir tester justement mon Capture the Flag?
Alors oui, certaines fois ils peuvent venir. Après, ce qu'il y a, c'est que les organisateurs de CTF sont souvent bien pris. Donc c'est vrai que si on leur demande en plus de venir à tous les autres CTF qui...
Bah, de venir, de tester tout simplement un Capture the Flag avant de le faire vraiment pour avoir un regard indépendant de ce côté-là.
Oui, alors après, nous, on a nos propres testeurs parmi certains organisateurs de Phone ou parmi d'autres personnes qu'on connaît, etc. Chacun prend, je pense, les testeurs parmi, on sait, les compétences qu'ils ont spécifiques. C'est vrai que, par exemple, sur l'IoT, c'est quand même très particulier. Donc, réciproquement, il y a une fois, j'avais un challenge OSINT à faire tester. Et nous, on n'avait pas vraiment de compétences suffisamment là-dedans. Bah, j'ai demandé justement à quelqu'un de Brest CTF, est-ce que tu connais quelqu'un, machin truc, pour tester mon challenge, quoi.
Ouais, si on précise, c'est tout simplement, c'est du renseignement en source ouverte, donc ce que l'on peut trouver dans l'annuaire pour avoir le numéro de téléphone du standard de l'Elysée. Vous testez donc justement les épreuves en humain versus IA. Est-ce que il y a vraiment une progression ces derniers temps sur l'IA aussi spectaculaire que ce que l'on a vu justement dans la programmation quand l'IA, on le met sur une problématique?
Ouais, on voit vraiment une amélioration. Je dirais que en 2023, c'était un petit peu le début. On commençait à avoir des challenges quand même, IA, etc. Mais c'était uniquement du chat direct, etc. 2024, ça s'est encore amélioré. En 2025, c'était devenu tellement massif. Là, je me rappelle, j'étais à Nolsec CTF. Et en fait, bah, je me balade, je sais pas, au milieu des joueurs et je voyais pratiquement un onglet IA chez tout le monde, quoi. Tout le monde l'utilisait, etc. Et là, maintenant, en 2026, c'est pire que ça, entre guillemets. C'est en plus, tout le monde a des agents, a des skills. Enfin, c'est un setup un peu préparé. Donc oui, ça s'est vraiment beaucoup, beaucoup amélioré, quoi.
C'est en général l'usage de l'IA, c'est pour pouvoir, parce qu'on a déjà une idée et qu'il faut faire une tâche ultra répétitive, autant la confier à une IA, ou on n'a pas du tout d'idée, donc on lui dit, ben, écoute, voici la problématique, ce que j'ai, etc. Extrait-moi justement la chaîne de caractères qui ressemble à tel pattern.
Alors, la manière raisonnable de le faire, ce serait la première, c'est effectivement de dire, ah ben voilà, j'ai un peu ça, ou là, ça va me prendre du temps, est-ce que tu peux faire telle partie? Ça, ce serait l'usage raisonnable, je pense, de l'IA. Malheureusement, c'est pas forcément ce qu'on voit. En fait, comme en CTF, on est beaucoup pris par le temps, et que c'est quand même compétitif à l'heure actuelle, bah, les gens ont tendance à mettre directement, balancer tous les énoncés dans l'IA, en plusieurs IA en parallèle, de le faire travailler et puis pendant ce temps-là, éventuellement de réfléchir vraiment eux-mêmes à certains autres challenges un petit peu compliqués, en espérant récupérer les flags des autres, quoi.
Ou faire une micro-sieste, puisque des fois, ça dure 24 heures, 48 heures non-stop, dans un endroit qu'on connaît pas et tout le reste. Cryptax, on va voir si vous êtes vraiment organisatrice de CTF. C'était quoi la réponse à la sixième question? J'ai cru comprendre qu'il y avait une histoire de canard et de carotte.
De canard et de carotte?
Ouais. D'accord, ok. Est-ce que, comme pour les escape games, il faut parfois calmer l'ardeur de certains trop enthousiastes qui sont prêts à défoncer les murs de placo à la grosse masse?
Alors ça doit dépendre des CTF. Je pense qu'il y a certains CTF où il doit falloir effectivement calmer les ardeurs. Nous, on n'a jamais eu de problème de débordement de ce genre-là. Mais plus on est nombreux et plus y a du monde, plus il y a potentiellement quelques personnes un peu à canaliser, quoi. Voilà. Donc, oui.
Donc, ça veut dire qu'il faut un service d'ordre quand même derrière.
Alors, nous, par exemple, là où on a l'université qui nous demande un vigile à l'entrée, rien que pour la sécurité. C'est voilà. Mais ça paraît normal aussi. C'est une question d'assurance pour eux. Voilà, quoi. Après, nous, on n'a pas eu de problème. Voilà.
Est-ce qu'on impose des limites, comme par exemple ce qui se passe à la DEFCON de Las Vegas, où on dit skier la telle pièce et celle des journalistes, on n'y touche absolument pas, c'est pas là où est la réponse?
Alors oui, il y a toujours des limites dans tous les CTF. Par exemple, s'attaquer au scoreboard, s'attaquer à certaines choses comme ça. Normalement, ça dépend, c'est souvent marqué hein, dans les règles, c'est marqué hors périmètre. Là aussi spécifiquement, nous par exemple, pour Faune, on spécifie quelles sont les machines qui sont dans le périmètre et celles qui ne le sont pas. Tout ça pour éviter, par exemple, s'il y a quelqu'un qui se met à attaquer une machine du réseau, par exemple de l'université, au final c'est nous qui serons responsables. Faux ne pourra plus avoir lieu et ce sera en fait la catastrophe. Donc il faut être bien clair là-dessus pour que les gens ils sachent ben, ça je peux attaquer, il n'y a pas de risque, c'est fait pour, ou ça je peux pas attaquer et si j'attaque, ben, les gens se retourneront peut-être contre moi, quoi. Enfin voilà, si ça se passe mal, quoi. Voilà.
J'ai que comprendre quand même que dans le genre serious gaming de CTF, il y a du serious gaming qui est carrément organisé par l'armée et où là, ben, c'est carrément, on se retrouve avec des gens qui sont masqués sur la tête et tout ça pour que des civils puissent participer, mais pour pas qu'on puisse les reconnaître puisqu'ils sont dans les domaines ultra sensibles. C'est une légende ou c'est pas une légende?
Je pense que c'est pas une légende, même si j'ai pas exactement participé à ce genre de CTF-là. Je préfère des trucs un peu plus standards, un petit peu plus calmes et qui, voilà, qui ont moins prise de tête, où justement les gens peuvent parler librement sans problème, quoi.
Ça vous amuserait pas d'essayer de décimloquer un F-35? C'est pour un pays ami. Est-ce qu'il y a encore du fun si l'IA résout à la place ses énigmes?
La question est bonne, en fait. Je pense que ça dépend toujours de à quel point elle résout les énigmes. Si elle résout vraiment de bout en bout et qu'on n'a rien fait, il n'y a aucun fun. Enfin, pour moi, il n'y a aucun fun. Ça dépend peut-être des personnes. Après, si on est un peu obligé de la guider, si on l'utilise juste un peu en termes de documentation ou pour écrire un code qui aurait été un peu longuet à écrire, etc., ou pour débugger un de ces codes, parce que ça, ça arrivait souvent en CTF avant. On était très proche du flag, on écrivait un code, et puis bah, ça ne marchait pas. Voilà. Et ben, on n'avait pas le flag à la fin, c'est frustrant, alors que c'était une erreur de point-virgule à tel endroit. Bon, c'est un peu dommage. D'une certaine manière, on méritait presque le flag. Voilà. Bon, de ce côté-là, l'IA est utile. Voilà.
Ou pour retranscrire, puisque là, ce qu'on a vu aussi sur une résolution de CTF, où c'était une bande passante très particulière dans un fichier audio dans lequel il y avait une espèce de code binaire qui était injecté et tout. Là, le rentrer à la main, c'est peut-être plus simple avec une IA. Alors, je ne vais pas complètement spoiler la conférence que tu viens de donner justement tout à l'heure, où en fait, vous étiez allé jusqu'à faire de l'injection de prompt au cas où une IA participe. Est-ce que ça fait finalement aussi partie du jeu de demander aux IA d'agir responsablement sur ce type de jeu et d'avoir justement un comportement éthique vis-à-vis de l'humain qui demande d'y participer?
En fait, personnellement, je trouve que ça serait pas mal, oui. Mais à mon avis, la demande, elle va au-delà des CTF, ça va aussi sur l'éducation, dans les écoles, dans l'apprentissage. Parce que là, en l'occurrence, c'était sur un challenge qui était facile. Et j'aurais eu un mode, mais bon, ça va pas exister, hein. Je parle vraiment de rêve, mais il y aurait un mode où on pourrait dire à l'IA, écoute, là, le but du jeu, c'est qu'ils apprennent, donc tu peux leur les aider un petit peu, mais tu leur mâches pas trop le travail. Ça serait génial d'avoir ça. Mais il n'y a pas.
Pas encore totalement, de manière totalement standardisée, ou au contraire, il y en a qui ignorent complètement, puisqu'ils commencent à se protéger aussi à ce type, justement, d'injection. Alors, puisqu'on est dans une université, l'université Paul Sabatier, et j'ai des grands souvenirs de ça, est-ce que pour ne pas fausser la sincérité dans ce genre d'épreuve, interdire les calculatrices, justement, comme au lycée et à la fac, et imposer la Casio AFX 82?
Ouais.
Ah, le sourire qui rappelle quelque chose avec cette référence.
Je la vois très bien, cette calculatrice. Mais moi, je suis passée juste avant, justement, cette période où il y a eu des choses un peu bannies, parce que les calculettes étaient puissantes, mais pas suffisamment pour que ça soit vraiment game changer, etc. Voilà, je ne sais plus qui me demandait, mais quand j'ai passé le bac, j'avais une calculatrice où il y avait 192 pas. C'est pas des octets, donc ça comptait en pas. C'était pas grand-chose, hein, ça aidait un petit peu, mais je pense que je peux clamer quand même que j'ai eu le bac par moi-même et pas par la calculatrice, là.
Forcément. À essayer de piéger justement un peu les IA ou leur donner des instructions et tout ça, est-ce qu'on ne risque pas d'introduire de la confusion qui peut piéger certains humains et qui pourrait justement créer une sorte de discrimination sans le vouloir auprès de personnes neurodivergentes?
Oui, alors c'est une très bonne remarque. En fait, c'est un stratagème là où on s'était dit, tiens, on va injecter un prompt un petit peu pour faire partir l'IA dans une autre direction. Mais quelqu'un d'autre aurait pu le voir et se dire, finalement, c'est pas idiot, pourquoi est-ce que je regarderais pas à cet endroit-là? Et donc, c'est pas une utilisation malicieuse. Donc, c'était un essai. On est tous, je pense que tous les organisateurs de CTF, on est en train d'essayer différentes solutions. C'est un essai, c'est pas parfait. Et on cherche vraiment, là.
Avec la nouvelle version de Claude, on voit de plus en plus d'améliorations sur la recherche de failles techniques, à tel point que pas mal d'entreprises, de projets open source, de grandes fondations suppriment les bug bounties. Est-ce que c'est pas un signe avant-coureur de la fin des lots dans les CTF?
Oui, c'est possible. La grosse différence, c'est, je dirais, les LLM depuis quelques mois, hein, parce que tout va très vite. Ils sont un petit peu améliorés, mais pas tant que ça. Mais par contre, ce qui a beaucoup changé, c'est tout ce qui est skills, agents. Du coup, ça augmente énormément les performances des LLM. Et c'est ça qu'on voit là sur les vulnérabilités, notamment, etc.
Et faut expliquer rapidement. Donc, les skills, c'est les agents, c'est les espèces de plugins qui se rajoutent. C'est-à-dire, on rajoute littéralement des fonctions cognitives, théoriquement, à ces moteurs LLM.
Ouais, tout à fait. Oui, pour les CTF, je pense, en tout cas, on va un petit peu tous, pour l'instant, en 2026 en France, sur, en tout cas, baisser les lots. Parce que il faut que ça soit en rapport avec l'effort qui a été fourni. Après, on va voir comment ça se passe pour 2027, etc. Là, on discute beaucoup tous entre nous. Et toute personne qui a une bonne idée, enfin, on est tous vraiment à l'écoute, hein, vraiment là-dessus pour la réimplémenter ailleurs, quoi.
Pour un novice qui souhaite découvrir ce que c'est qu'un CTF dans un contexte hacker, qu'est-ce que tu lui conseillerais ?
Je lui conseille vraiment de commencer déjà dans certains CTF avec les challenges qui sont faciles. Et ceux qui sont, ceux qui sont marqués faciles, de effectivement pas se servir de l'IA ou vraiment très peu, c'est-à-dire s'il y a quelque chose qu'il connaît pas, par exemple, je sais pas, le challenge il est sur le signal radio, bon bah là il peut utiliser le LM pour demander bah ouais un peu comment ça marche, je connais pas trop, etc., pour se dégrossir un peu le terrain. Mais il faut pas que ça aille au-delà de ça, c'est-à-dire faut que ça lui serve de recherche documentaire. Après il faut qu'il essaye de trouver par lui-même. Parce que s'il n'arrive pas à trouver par lui-même, il ne pourra jamais après faire un challenge un peu plus intéressant, avec ou sans IA, quoi.
Et l'idée, c'est avant tout d'apprendre.
Ah oui, là, si on n'a pas des débutants qui démarrent en CTF, quoi qu'il arrive, ça veut dire que le CTF est mort dans 10 ans ou dans 15 ans. Donc il faut absolument arriver à faire débuter les gens. Hein.
Et on aura une génération perdue qui ne comprendra même plus comment déplanter la serrure de la maison. Critax, merci beaucoup. Joyeux THCon, très bon retour de votre côté. Et au plaisir de vous lire. On aura tous les liens justement de votre conférence et tout ça sur la page de l'émission.
Merci beaucoup à vous.
C'était CPU, le programme Carré Petit Utile de Radio FMR. Dans la série Paranoïde Android, release EX0244, THCon 10 ans. Cette release, l'équipe est composée de Daskrich, Chief Pentesting Officer, Benoît, Chief Soldering Officer, avec la participation et l'expertise de Enflammé et de Jerds du Theta Lab. La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU. L'intégralité du programme, des extraits et nos sources sont disponibles sur la page web de l'émission cpu.pm/244. Vous pouvez commenter et partager les chroniques et interviews sur en licence libre. C'est donc là pour ça. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Et si vous nous écoutez sur Radio FMR le jeudi en direct analogique ou numérique, il est midi, nous cédons l'antenne à Monique Blanquet pour son impromptu cultivé qui est, je n'en doute absolument pas, consacré au cheval de Troie. FMR à Toulouse sur 89.1 en FM, en DAB+ et en stream sur Internet.